Bonsoir et bon début de semaine à tous. Après 4 jours d'affrontement entre les FRDC et les rebelles du M23, dans le groupement Djomba, Busanza et Bweza, territoire de Rutshuru, un calme précaire s'observe ce lundi sur différentes lignes de front dans le Rutshuru. Plusieurs sources dans la région parlent d'une avancée des FRDC qui ont repoussé l'ennemi sur les fronts de Djomba et Busanza au nord, alors que le front sud, des sources rapportent que les rebelles du M23 ont occupé le village de Tamugenga dans le groupement de Bweza où des tirs ont été entendus cet avant-midi. Ces affrontements éclatent dans un contexte où le gouvernement a réitéré sa décision de ne pas négocier avec le M23 qu'il qualifie des groupes terroristes. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 24 octobre 2022. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et Université catholique Graben de Butembo. Professeur Mouessi, bonsoir.
Bonsoir.
Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, bonsoir.
Et tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et il y aura Ensler, coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu. Il y aura Ensler, bonsoir. Merci de nous suivre à Goma, au Nord Kivu, sous la 95.5. Nous en profitons pour saluer aussi les auditeurs de la radio Lumière de Shabunda qui nous suivent sur la 100.0 MHz. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Je l'ai dit, dans le sommaire, un calme précaire s'observe ce lundi 24 octobre sur différentes lignes de front entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes là, dans la province du Nord Kivu, après 4 jours d'intenses combats entre les FRDC et le M23 dans le groupement de Djomba, Busanza et Bweza, territoire de Rutshuru. Reportage Bernard Danyangi.
Cette accalmie ce lundi s'observe après près de 4 jours d'affrontements entre les FARDC et les rebelles dans le groupement de Djomba, Busanza et Bweza, territoire de Rutshuru. Dans son communiqué officiel publié hier dimanche, le chef du service de communication des FARDC, le général-major Sylvain Kenge, précise que les rebelles ont essuyé des revers sur les axes Djomba et Busanza où ces attaques ont commencé jeudi et vendredi. Une information confirmée par les sources civiles dans la zone. Celle-ci précise que, sur le front nord, axe Busanza, les FARDC ont repoussé l'ennemi de Musezero jusqu'à Kibaya, environ 2 km de Bunagana, alors que sur le front ouest, groupement de Djomba, l'armée a repoussé le M23 jusqu'à Baseke, dans la localité de Kabindi, 15 km de Bunagana. Par contre, sur le front sud, groupement de Bweza, les rebelles ont occupé la localité de Tamugenga après des affrontements presque toute la journée hier dimanche. À présent, presque toute la zone occupée par le M23 est vidée de ses habitants qui ont fui les uns vers les zones sécures en territoire de Rutshuru, les autres vers l'Ouganda. Goma, Bernard Danyangi, Radio Okapi.
Merci Bernard Danyangi pour ce reportage. Professeur Augustin Mouessi, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et Université catholique Graben de Butembo. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait, professeur, la reprise des affrontements entre les FRDC et le M23?
Oui, merci madame. À mon avis, je crois que la reprise des hostilités peut être expliquée par une série de facteurs, notamment les statu quo observés dans la stratégie de la guerre diplomatique que le gouvernement congolais, n'est-ce pas, a mis en place. Comme vous le savez, le gouvernement congolais avait pris le temps de sensibiliser la communauté internationale, d'informer la communauté internationale qu'elle était victime d'une agression voilée, donc faisant ici allusion au soutien dont les M23 bénéficieraient justement de l'armée rwandaise. Et de ce côté-là, moi j'ai l'impression que les lignes n'ont pas beaucoup bougé, parce que on n'a pas encore obtenu une condamnation ferme du Rwanda, même si évidemment il faut dire que le processus de Nairobi va pouvoir reprendre d'après l'annonce qui a été faite. Et ensuite, le deuxième facteur, c'est un peu la pression de la société civile congolaise, même de l'opinion publique, qui, vous savez, il y a eu beaucoup de manifestations ici à l'est de la RDC, et même certaines voix se sont levées à partir de d'autres parties du pays, notamment Kinshasa, pour demander en fait au gouvernement de pouvoir effectivement reprendre Bunagana. Et donc, je crois que... Et ensuite, on ne peut pas oublier aussi l'annonce, effectivement, la reprise du processus du dialogue de Nairobi. Comme vous le savez, au départ, lorsque ce dialogue avait été ouvert, les M23 demandaient, en fait, des discussions en aparté avec le gouvernement congolais, ce qui n'avait pas été accepté. Et donc, au moment où on annonce, effectivement, la reprise de ces pourparlers, je me dis que cela peut effectivement avoir joué en faveur de la reprise des hostilités, parce que les hostilités, en fait, relèvent effectivement des stratégies des acteurs pour les M23. Les M23 pourraient se dire, il faut que nous puissions continuer à maintenir la pression sur les gouvernements congolais pour qu'effectivement nos revendications soient prises en compte, mais aussi le gouvernement pourrait se dire... il serait souhaitable, après avoir essayé une stratégie du pivotement où on a donné l'impression de ne pas réagir, on a donné en fait la place au statu quo sur le terrain, le gouvernement pourrait se dire que c'est le moment de faire bouger les lignes en attendant l'arrivée, n'est-ce pas, de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, mais essayer aussi effectivement de montrer à la société civile, à l'opinion congolaise, que le gouvernement est capable effectivement de mettre hors d'état de nuire en fait la rébellion du M23. Donc je crois que c'est en essayant de sommer ces facteurs qu'on peut comprendre pourquoi effectivement il y aurait reprise des hostilités dans cette zone contrôlée par le M23.
Professeur, vous avez parlé du statu quo sur le plan diplomatique. Ça serait la raison pour laquelle le gouvernement aurait décidé qu'il faut finalement utiliser l'option militaire pour en finir une fois pour toutes avec le M23. Le M23 qui serait appuyé selon plusieurs sources par l'armée rwandaise et même ougandaise.
Oui, effectivement, pour moi, même si effectivement le gouvernement congolais a mené beaucoup d'actions, beaucoup de plaidoyers, le gouvernement congolais a parlé, n'est-ce pas, de sa situation dont elle est victime à toutes les occasions qui lui ont été données, mais je n'ai pas l'impression effectivement que la communauté internationale ait unanimement condamné effectivement le Rwanda. Ce qui fait que derrière justement il y a l'encage du bois, les encages du bois où certains acteurs de la communauté internationale demandent à ce que effectivement les M23 rejoignent le processus de Nairobi, mais on ne sent pas jusque là une condamnation ferme, ce qui fait que c'est une situation qui n'a pas beaucoup évolué à faveur de la RDC, et je me dis que constata justement que le front diplomatique n'a pas obtenu beaucoup de résultats, même s'il y en a peut-être, le gouvernement se dit il faut absolument essayer de reconquérir Bunagana pour essayer d'amener effectivement les M23 à pouvoir renoncer à ses revendications ou alors à pouvoir accepter la logique, les schémas proposés par le gouvernement congolais. Et donc c'est dans ce sens-là que je me dis que c'est dans ce contexte que je tente effectivement de situer la reprise, n'est-ce pas, des hostilités, n'est-ce pas, à Bunagana. Comme vous le savez, on dit toujours que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, même si quelqu'un d'autre avait dit que la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et je crois que pour le gouvernement congolais, on s'est dit qu'il faut absolument tout en maintenant effectivement la stratégie de la guerre diplomatique, essayer de l'accompagner par les affrontements sur le terrain, par des actions sur le terrain, même s'il faut pas aussi oublier peut-être que les nouvelles nominations à la tête de l'armée aussi pourraient avoir impacté effectivement cette reprise des hostilités, même si évidemment pour qu'on mène une guerre ça se planifie, mais ça peut, cette nouvelle donne aussi peut avoir, n'est-ce pas, joué à faveur, n'est-ce pas, de la décision du gouvernement congolais à pouvoir reprendre effectivement Bunagana et les autres territoires contrôlés par les M23 par la force.
Professeur Mouessi, on constate que l'option militaire aussi n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Il y a eu des affrontements il y a quelques mois, puis on a observé une accalmie. Maintenant, les affrontements ont repris. Hier dimanche, les rebelles du M23 ont occupé le village, la localité de Tamugenga après des affrontements presque toute la journée avec les FRDC. Finalement, les deux fronts, que ce soit diplomatique ou politique, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que ça ne marche pas de deux côtés?
Effectivement, dans ce qui est en train de se passer à Bunagana, il y a la stratégie de la guerre de communication, où on ne sait pas effectivement qui a pris le dessus sur l'autre, ainsi de suite. C'est chaque camp qui essaie de communiquer à sa faveur. Mais ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que dans une guerre, l'option militaire n'a jamais été toujours suffisante en elle seule. Parce que une chose, c'est de pouvoir conquérir des espaces, mais aussi travailler sur un certain nombre de préalables qui peuvent faire en sorte qu'une fois on a conquis des espaces, de pouvoir pérenniser, n'est-ce pas, la sécurité, mais aussi parce que à l'origine d'une guerre, il y a toujours toute une gamme de raisons, de facteurs qui sont là et qui méritent en fait des solutions appropriées qui doivent pouvoir essayer effectivement de prendre en compte chaque cas et essayer de consolider ce qu'il convient de faire. Et donc l'option militaire ne peut pas résoudre comme deux coups de baguette magique une guerre et qui a parfois toujours des raisons plus complexes que l'on le pense en fait.
Didier Bitaki, vous êtes ancien membre des groupes armés au Kivu et expert en désarmement et en droit international. Comment vous analysez la situation sécuritaire dans le Rutshuru avec la reprise des affrontements entre les FRDC et le M23?
Merci beaucoup. En analysant cette question de Rutshuru, hein, on doit tirer trois éléments en fait. Le premier élément, c'est que la reprise des hostilités est liée à la léthargie du gouvernement congolais, à pouvoir prendre cette question avec toute la considération que la question mérite. Le deuxième élément, c'est que il faut considérer la volonté de l'agresseur à pouvoir faire de la RDC un non-État, donc un État failli, où on peut se permettre tout. Et en troisième lieu, il faut considérer la situation dans le comportement de la communauté internationale qui ne veut pas reconnaître dans les faits que la RDC est agressée par ce voisin. Voilà les trois éléments. Maintenant, quand je rentre sur le premier élément qui concerne la léthargie du gouvernement congolais, c'est qu'il faut comprendre au départ que le gouvernement congolais est dans un tâtonnement total. Le gouvernement congolais ne sait pas ce qu'il cherche. Soit d'un côté, il cherche la guerre, alors on fait la guerre et on en finit. Soit le gouvernement a besoin de la paix, donc une solution pacifique, alors on arrête la guerre, on va vers des négociations directes, soit avec les deux acteurs, notamment le M23, qui a des revendications, bon, que j'estime exagérées, et de l'autre côté, satisfaire les demandes du Rwanda avec qui Kinshasa n'a cessé de discuter. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, sur le plan le deuxième élément que j'ai évoqué, qui concerne l'extérieur. C'est-à-dire, il faut amener le Rwanda à renoncer à cet usage de force en manipulant certaines communautés de l'Est, notamment la jeunesse de certaines communautés, pour le pousser contre le gouvernement, contre les institutions de la République, parce que tout simplement les Rwandais trouvent son compte dans ce genre de choses. Alors, si le gouvernement congolais parvient à imposer sa volonté au Rwanda et lui dire que, écoutez, monsieur, vous devez arrêter, ça c'est mon pays, et je dois résoudre le problème en interne, avec mes propres moyens. En ce moment-là, on a une solution.
Comment imposer sa volonté au Rwanda? Comment la RDC?
Il n'y a que deux options, parce que l'option diplomatique qu'avait choisi M. Tshisekedi a échoué complètement. Ni les Nations Unies, ni les États de la région, ni la communauté nationale même, personne ne comprend ce que veut le régime. Alors, dans ces conditions, c'est qu'il faut accepter, soit discuter avec le Rwanda et satisfaire à ses demandes, et soit faire la guerre en imposant la volonté du gouvernement congolais au Rwanda que nous sommes forts. Si vous osez encore avancer d'un seul pas vers la RDC, nous vous frappons. Ce sont les deux options qui restent. Si donc Kinshasa n'est pas capable de faire cela, alors il faut céder au caprice du M23. Que j'estime que ce caprice avait déjà été pris en compte en 2009, en 2012, en 2013, et jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que les choses doivent être résolues.
Et par rapport au M23, le gouvernement est catégorique qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23 tant qu'ils vont continuer à occuper certaines localités dans le territoire de Rutshuru.
Mais il faut être réaliste et même constant dans ce qu'on veut dire. On a ouvert les négociations de Nairobi où on a invité les autres groupes armés pour qu'ils devraient obtenir la paix à partir de ces cadres-là. Mais il faut retenir un élément important, c'est que le M23 n'est pas arrivé à Bunagana sur invitation du gouvernement. Le M23 a récupéré Bunagana par la force parce que nos éléments de FRDC, infiltrés de fond en comble, ont échoué à tenir Bunagana jusqu'à chasser le M23. Donc, demander au M23 de quitter Bunagana pour que des négociations aient lieu, ça c'est d'abord utopique. La seule force, le seul moyen qui peut permettre à que cela soit possible, c'est d'imposer la force au M23 à abandonner Bunagana et fuir. Mais si on n'est pas capable de le faire comme ce qui se passe aujourd'hui, où Sentamugenga qui tombe encore entre les mains du M23, c'est encore d'autres localités qui sont pilonnées par la coalition Rwanda-Uganda M23, alors c'est que là, on a déclaré la guerre contre le M23 et ses alliés, donc il faut être conséquent que demain, il peut y avoir riposte. Ou après demain on peut être attaqué, il faut disponibiliser les forces. Mais à l'état actuel des choses, moi je suis en train d'estimer que la RDC n'a pas cette capacité. Donc nos forces armées ont montré leurs limites, et encore pire, le gouvernement n'emploie que des officiers ici du CNDP sur le front pour barrer la route ou faire face aux mêmes éléments du M23 transfuge du CNDP. Ce qui veut dire que on ne contrôle pas la situation, c'est les M23 qui contrôlent. Parce que si on voulait contrôler la
malgré le changement à la tête des FRDC, vous pensez que le gouvernement ou l'armée n'a pas le contrôle sur ce qui se passe au front?
L'armée a perdu contrôle, il faut le dire combien de fois. Vous avez dit vous-même dans votre reportage que Ntamugenga est tombé. Qui a pris l'initiative de combat? C'est le M23. Et le M23, il a pris Ntamugenga, où avait un dispositif militaire important. Ça veut dire qu'on est loin de reprendre Bunagana par la force. Donc, cette option militaire, il a montré ses limites. Alors, il faut chercher une autre option qui puisse ramener la paix pourvu que l'intégrité du territoire soit préservée. Si le gouvernement ne le fait pas, alors qu'ils disent à l'opinion, quelle est l'option qu'ils comptent utiliser pour y mettre fin, parce qu'il n'est pas prêt aux négociations, et d'autre part, il n'est pas capable de mener la guerre. Maintenant, nous restons dans ce statu quo jusqu'où. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit, en analysant les faits, notamment la réalité sur le terrain, mais aussi les aspects diplomatiques qui entourent toute la question de l'attaque du Rwanda sur la RDC, on constate que diplomatiquement, on a perdu la bataille. On constate que militairement, on est en train de perdre. Maintenant, quelle est la solution? C'est que soit on négocie la paix, on satisfait, on répond aux demandes du M23, ou soit on refuse de le faire, alors il faut lancer une mobilisation générale et des forces actives et des forces inactives pour qu'on mette fin une bonne fois pour toutes à l'aventure du Rwanda en RDC. Voilà.
Eliora Hensler, coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu, quelle est votre lecture de la situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru avec ces affrontements entre les FRDC et le M23?
Bonsoir à tous les auditeurs. Et qu'une grande partie des clés d'analyse, je pense, ont déjà été données par les deux intervenants qui sont venus avant moi. Ce que je voudrais rajouter peut-être, c'est que évidemment, on se pose la question de pourquoi maintenant, après cette phase d'accalmie relative. Mais pendant cette phase d'accalmie relative, Bounagana était occupé par les M23. Les armements par des fermes et des endroits poreux sur la frontière avec le Rwanda ont continué à opérer. Des recrutements se sont poursuivis, les tracasseries des populations se sont poursuivies. Donc c'est pas comme si on avait, pendant la phase des dernières semaines où il y avait peu d'affrontements, une situation où les M23 comme ennemi n'étaient pas présents ou n'étaient pas opérationnels sur le territoire congolais. Après, là où je rejoins également le professeur, c'est de dire qu'en fait, le fait que les FRDC maintenant prennent une position plus offensive suite à une attaque que d'ailleurs nous on n'exclut pas la possibilité qu'au début c'était une escarmouche qui pouvait être même un accident, mais le fait que les FRDC réagissent de manière offensive et essayent de reprendre les zones, ça a été une demande de la population civile, de la société civile depuis longtemps. Et quand on regarde les axes sur lesquels les M23 avancent, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'axe de Njomba où les affrontements ont commencé. Maintenant, on les voit beaucoup plus à Ntamugenga et il reste la question sur l'axe qui va vers Rumangwabo et vers Rugari. Je pense que de notre point de vue, évidemment, on ne peut pas donner d'hypothèse sur ce qui va se passer sur le terrain, mais on a l'impression qu'à voir les types d'affrontements et les types de directions que prennent les M23, on est beaucoup plus dans une optique de affaiblir les FRDC en coupant les routes d'approvisionnement et forcer la main du gouvernement vers des négociations que le gouvernement a dit très clairement ils ne peuvent pas accepter, en tout cas pas dans la manière dont elles ont été demandées par les M23 à l'heure actuelle, que de dire qu'on est sur une optique de contrôler tout le territoire et de prendre Goma. C'est-à-dire que les commandements du M23 sont quand même assez clairs encore sur le fait que eux, ce qu'ils demandent, c'est de négocier. Après, comme ça a été déjà mentionné avant moi, ce qu'ils voudraient faire, c'est de passer à côté du processus de Nairobi. Et une des raisons principales, je pense qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui est très clair dans le programme des DRCS du gouvernement congolais actuel, c'est qu'il n'y aura pas d'intégration en bloc de personnes, surtout de personnes du commandement des groupes armés, dans l'armée. Or, c'est une demande centrale de la part des M23. Donc, je pense que c'est même par cette nature-là. C'est pas comme si il n'y avait pas de possibilité imaginée de négociation à un moment. C'est juste que, je ne peux pas avancer ça. C'est juste que pour l'instant, le gouvernement est très clair sur le fait qu'ils ne négocieront pas avec un groupe qui occupe une partie de leur territoire, surtout s'ils sont assistés par un gouvernement étranger et qui en plus demande dans ses demandes centrales quelque chose que le gouvernement congolais a déjà exclu du processus de désarmement. Donc je pense que c'est avec ce contexte-là de poudrière qu'on s'est retrouvé vers des affrontements plus récents de deux acteurs armés qui défendent leur territoire, les M23 qui essayent de gagner du territoire au Congo pour forcer la négociation, et les FRDC, l'armée loyaliste, qui essaye de défendre son intégrité territoriale.
Il y aura beaucoup de personnalités, même la communauté internationale, ont demandé au gouvernement congolais de pouvoir avoir des négociations avec le Rwanda. Le Rwanda qui soutient le M23, même si officiellement ce pays ne reconnaît pas être derrière le M23. Le M23, de son côté, insiste sur les négociations directes avec le gouvernement congolais parce que ce mouvement dit que c'est lui le premier acteur dans la situation qui se passe dans le Rutshuru. Tant que le gouvernement ne va pas négocier avec le M23, ce sera une perte de temps inutile et ils ne reconnaissent pas le Rwanda comme étant leur soutien.
Oui, et je pense que ça pose un énorme problème dans cette situation de négociation. Enfin, surtout quand vous dites la communauté internationale, des personnes qui demanderaient au gouvernement congolais de commencer des discussions avec le Rwanda. On a quand même un rapport, et ça a été mentionné avant moi, mais on a un rapport du groupe d'experts qui démontre le soutien du Rwanda au M23. Et ça n'a pas été repris par la communauté internationale au degré auquel on aurait pu s'attendre. Je veux dire, les discussions sont toujours en cours au niveau du Conseil de sécurité, si ça peut avoir des répercussions sur les sanctions. Mais tant qu'en face, on a le gouvernement rwandais et dans une moindre mesure le gouvernement ougandais qui nie le soutien au M23, alors qu'il y a des appuis, je pense, assez crédibles qui vont dans cette direction-là, le gouvernement congolais, je pense, est aussi dans une position où comment on fait une négociation avec un acteur qui en fait est en quelque sorte la façade ou la façade publique d'un autre État, d'un autre État qui part son soutien et on pourrait dire en train de faire un acte d'agression envers le Congo. Donc au moment où on travaille sur des faits qui ne sont pas acceptés par tous les acteurs, je pense que c'est très difficile de demander des négociations. Et puis le M23, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas trop de surprise que leur position publique, c'est qu'ils veulent négocier avec le gouvernement congolais, vu que c'est ça leur but, c'est de demander premièrement l'intégration dans l'armée congolaise pour tous leurs combattants et ensuite le retour des réfugiés de guerre. Mais pour le gouvernement congolais, moi je comprends que ça les mette que ça mette le gouvernement dans une position impossible, où en fait ils demandent, je pense justement pour ça, le soutien de la communauté internationale et de se mettre sur la même page sur les faits, qui est le soutien d'armées étrangères au M23. Parce que sinon, on les force dans une position de négocier avec un agresseur.
On va prendre à présent les réactions des auditeurs qui ne cessent de nous appeler pour donner aussi leur point de vue par rapport au thème de ce soir. Professeur Augustin Mouessi, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bounia, dans la province de l'Ituri.
C'est David Soumaïli Moussassi, depuis la ville de Bounia, dans la province de l'Ituri. Nous saluons la bravoure de nos vaillants soldats pour toutes ces avancées. Pour le moment, il n'est plus temps de faire les négociations. Ce que nos frères de ces font maintenant, c'est ce qui devait normalement se faire depuis longtemps. Étant donné qu'on avait essayé à faire des négociations et cela a échoué, nous n'avons nullement tort de les chasser par tous les moyens, malgré tous les dégâts pouvant se produire. Il est vrai qu'on ne peut pas attaquer toutes les positions à la fois, mais espérons et encourageons nos vaillants militaires de continuer avec les opérations pour traquer l'ennemi partout où il se trouve et ne laisser aucune occasion d'évasion.
Professeur Mouessi.
Oui, évidemment, ce que dit l'auditeur, c'est ce que beaucoup de Congolais disent tout bas, et même tout haut. Et l'opinion congolaise, où je vois le gouvernement congolais, effectivement, réchante du Nagana et tous les territoires occupés par les rebelles du M23 et même d'autres rebelles qui sème la sécurité, qui sème la terreur sur d'autres parties du pays, du Nord Kivu, de l'Ituri et pourquoi pas ailleurs. Mais le problème, et ça c'est déjà un élément important évidemment, quoi, le soutien psychologique de la population, mais le problème c'est que on dit à stratégie de guerre qu'il faut aussi user la stratégie de l'économie, ça veut dire pour bien faire une guerre, il faut effectivement identifier correctement qui sont ses adversaires et essayer de voir effectivement qui sont leurs soutiens, quelles sont leurs forces et faire une analyse aussi de ce qu'on a comme force aussi. Et je me dis, il faudrait qu'effectivement le gouvernement fasse ce genre d'exercice. Avec la reprise des hostilités, on peut se poser une série de questions. Est-ce que pour une fois le gouvernement a extirpé de son armée effectivement les infiltrés dont on parle tant, qui ont toujours essayé de ne pas, qui ont toujours fait échouer parfois les actions de l'armée. Est-ce que il y a des dispositions pour cette fois-ci contrôler le territoire? Qu'est-ce qui va se mettre en place au niveau sous-régional pour qu'il y ait une bonne gestion de frontières? Que va devenir tous ces rebelles, en fait? Qu'est-ce que le gouvernement compte à faire? Est-ce qu'il compte ne pas parler avec eux, n'est-ce pas, dans le cadre du processus de Nairobi, avec tous les autres, ou va-t-on faire une exception? Donc je crois que c'est une série de questions qui valent la peine d'être posées, même si évidemment le fait que la population soutienne l'armée, c'est déjà un élément psychologique important pour gagner une guerre, mais il faut dire que ce n'est pas le seul élément qui fait gagner une guerre, parce que on a eu parfois d'autres opérations qui ont été menées, mais qui n'ont pas finalement trouvé Mamadou avait, n'est-ce pas, le célèbre Mamadou avait conduit des opérations qui avaient neutralisé ces rebelles. Mais à chaque fois, on se rend compte qu'après justement l'annonce, la neutralisation, il y a une résurgence. Et donc, ce qui fait dire que, ça me fait penser que, ça me fait dire que finalement, on a l'impression que les causes, les vraies causes, en fait, de cette instabilité à l'est de la RDC n'ont jamais fait l'objet d'un véritable examen. Et je m'en vais pour preuve, c'est que le processus DDR-RC n'est pas encore suffisamment pris au sérieux, ce qui fait que il y a beaucoup de membres des groupes armés qui avaient accepté, n'est-ce pas, de pouvoir abandonner la logique de la guerre, mais qui continuent à traîner par-ci, par-là, faute de moyens. Donc, je me dis, il y a toute une série de paramètres sur lesquels on travaille pour vraiment construire une paix durable à l'est de la RDC, même si, effectivement, l'option militaire reste une des meilleures pour le gouvernement. Le gouvernement semble privilégier cette option, et c'est une option qui est légitimée par un grand nombre de Congolais. Mais je voudrais quand même dire que cette option devrait être accompagnée d'un autre travail plus important, c'est un chantier très important, qui consisterait par exemple à pouvoir repenser le système de défense et de sécurité de la RDC pour éviter que finalement, après avoir pris le dessus sur les groupes armés, que demain, les mêmes causes finalement produisent les mêmes effets.
Didier Bitaki, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kabaré au sud Kivu.
Je suis Luc Marie Melengabo depuis Bukavu au sud Kivu. À mon avis, aucun pays n'a évolué avec les négociations. Ça met trop ensemble avec les FRDC pour un pays respectueux et respecté. Nous encourageons nos hommes au front et demandons aux hommes politiques de s'abstenir de toute spéculation pouvant ce climat par là de nos militaires. On a de mettre toutes les possibilités pour motiver ces hommes patriotiques de vivre le Congo et les FRDC.
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne de cet auditeur de Kabaré. Alors, pour lui, aucun pays n'a évolué avec les négociations. Il privilégie l'option militaire. Il faut utiliser la force pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles du M23.
Oui, mais l'option militaire préconisée par l'auditeur, moi, je souscris à cette option-là. Mais pour utiliser l'option militaire, il faut être sûr de ses arrière-gardes, c'est-à-dire disposer d'une armée, d'une force qui soit assez dissuasive et qui ait le moyen nécessaire pour mener des opérations d'envergure de manière à neutraliser l'ennemi. Mais dans cette situation, du cas du M23 face au FRDC, nous nous retrouvons dans le même cas de figure que ce qui se passe en Ukraine. Vous avez la Crimée qui est occupée par la Russie, mais la Russie qui vous dit nous négocions, mais nous ne quittons pas la Crimée. Bon, si vous évoluez, moi j'annexe encore le reste de votre territoire sur mon pays, et dans l'entretemps nous négocions. Comme ça, on retrace les limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faudra pas prendre la logique du M23 comme étant une rébellion qui vient parce qu'elle présente des revendications purement congolaises, où elle a besoin seulement d'intégrer les FRDC. Ce n'est pas le cas. Moi-même, j'étais dans ces négociations jusqu'en 2013. Le 1-23 a toujours intégré les FRDC, passant du CNDP à tous les autres mouvements. Le problème du 1-23 aujourd'hui, c'est qu'il faut les reconnaître. Le 1-23 a plus besoin de gagner d'espace pour créer un sous-État à l'Est qui sera supplétif au Rwanda et qui défendra les intérêts du Rwanda et de l'Ouganda. C'est une simple rébellion qui a besoin d'intégrer l'armée. C'est comme ça qu'il faut reconnaître et comprendre l'attitude de M23 aujourd'hui. Mais le gouvernement congolais de son côté devrait cesser de passer par le média, d'entrer dans tous les salons diplomatiques du monde pour dénoncer le M23 parce que le Rwanda, le cas du Rwanda et du M23 est déjà connu de tout le monde. Il s'agit d'une agression de l'extérieur contre la RDC. Ce qu'il faut, c'est d'organiser en interne d'abord les forces de défense et de sécurité de la RDC, en lui dotant de moyens conséquents, en évitant de demander à la communauté internationale d'intervenir dès lors que la communauté internationale reconnaît déjà la légitimité du M23
de mener une guerre conventionnelle contre la RDC comme s'il s'agissait de deux armées en face. Alors dans ce cas, il faut consolider le structure militaire de base de la RDC pour faire face à cette agression du Rwanda et de l'Ouganda. Mais il y a de l'hypocrisie autour de ça, et de la part du gouvernement, on n'est pas capable de comprendre qu'on est en train de faire face à un allié qui est déjà à l'intérieur de notre territoire, mais qu'on utilise comme état sans faire confier que l'Ouganda.
Merci.
Il y a des opérations en cours. Il y a des opérations en cours dans le Béni qui ne marchent pas parce qu'à la fois l'Ouganda appuie les FRDC de ce côté-là, mais tout en appuyant aussi les M23 à conquérir des espaces à l'intérieur de la RDC. On fait face à quoi? Est-ce que c'est l'Ouganda qui nous a... Est-ce que c'est nous qui ne connaissons pas la stratégie de l'Ouganda? Est-ce que c'est les Rwandais qui collaborent avec les M23? Alors, toutes ces questions doivent être solutionnées, mais la seule chose qu'il faut, c'est que l'option de négociation a échoué. Il faut utiliser la guerre, la force.
Merci Didier Bitaki.
D'abord, la compréhension du problème et ensuite la mobilisation générale de toutes les ressources de la République pour faire face à cette rébellion qui risque de couper les nords ou même une grande partie du pays et en faire un État tel que le M23.
Eliora Angeler, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Je suis Djomez Meshak Mouchagaloussa depuis la ville de Goma. Nous saluons le bon comportement de nos voyants phares d'ici sur le front. Néanmoins, dans le contexte actuel, nous ne cessons de nous demander quel serait l'objet du cessez-le-feu lancé par le chef d'État de la CIRGL auquel se sont joints leurs homologues de la communauté d'Afrique de l'Est, ainsi que le déploiement des forces de l'Afrique. Aussi longtemps que ces forces devraient continuer à se comporter comme des observateurs pendant que les rebelles du M23 avec leurs alliés rwandais ou ougandais continuent à refaire la guerre tout en massacrant la population. Avec les expériences dans le passé, la RDC n'a aucun intérêt de renégocier avec les rebelles qui sont au service des régimes étrangers, car actuellement nous sommes en train de payer le prix de toutes les négociations qui se sont déjà déroulées. Merci.
Il y aura un flair, la RDC est en train de payer les prix de toutes les négociations qu'elle a eues avant avec ce mouvement rebelle. Cet auditeur se demande finalement à quoi sert la force de l'EAC en RDC. Jusque-là, il n'y a encore rien de concret sur terrain.
Tout à fait. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a deux éléments là-dedans. Le premier, l'appel au cessez-le-feu qui a été fait dans le passé, ça faisait partie des processus de paix. Et après, comme je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure, le fait qu'il y ait un processus de paix qui soit en cours et une négociation à travers différentes instances, ça n'empêche pas que quand il y a des attaques, l'armée congolaise est en position de se défendre. C'est-à-dire que c'est vrai que face à ce cessez-le-feu, les M23 n'étaient pas impliqués là-dedans. Eux ont clairement dit que, comme on l'a dit là tout à l'heure, ils négocieraient que avec le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais étant sous attaque par ces rebelles, je pense qu'on s'attend aussi à ce qu'il y ait une réaction militaire. Pour ce qui est de l'intervention des armées étrangères, la force régionale a été annoncée. Il y a la plupart des contingents qui sont en fait déjà sur le territoire, hein, si vous regardez les forces burundaises au sud Kivu, les forces ougandaises dans le cadre de l'opération contre les ADF, les forces kenyanes qui sont arrivées et les forces tanzaniennes qui font déjà partie du FIB et de la MONUSCO. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura des nouveaux contingents qui vont arriver et sous quelle organisation? A priori, dans les documents qui ont été donnés pour l'organisation de la force régionale, c'est les contingents kenyans qui devaient combattre dans la zone où il y avait les M23. Après, je pense que là, on part vraiment sur une analyse où on est sur des spéculations, mais ça, c'était avant les nouvelles élections au Kenya. Donc, on pourrait se poser la question si le nouveau gouvernement, qui est vu comme légèrement plus proche de Kigali, va vraiment envoyer ses troupes pour combattre les M23, qui, comme vous l'avez mentionné, revient en fait à combattre le Rwanda. Et s'ils le font, alors dans quel intérêt et dans quelle mesure? Pour l'instant, par contre, on n'a pas encore eu un déploiement massif de la force régionale d'Afrique de l'Est pour combattre que ce soit les M23 ou d'autres groupes armés. On est encore un peu en attente pour ce déploiement.
Professeur Mouessi, nous sommes à la fin de notre émission. Comment vous entrevoyez la suite des événements sur terrain?
Oui, la situation va dépendre effectivement des rapports de force que justement les hostilités vont pouvoir imposer. Et n'oubliez pas en fait que la guerre c'est un acte de violence par lequel effectivement un acteur tente d'imposer sa volonté. Et donc certainement que à fonction de l'évolution de la situation, il y aura effectivement de nouvelles dynamiques qui vont pouvoir se développer, soit l'implication de la communauté internationale, sous-régionale, qui va peut-être lancer des appels à des pourparlers. Et peut-être que ces pourparlers pourront être organisés une fois la RDC aura renversé l'équilibre, aura imposé l'équilibre sur le terrain, ou du moins aura peut-être réussi à déloger les rebelles du M23. C'est peut-être possible, mais il n'est pas impossible aussi que la situation évolue dans un autre sens. Donc ça dépend de tout ce que les acteurs vont mettre en place comme moyen pour pouvoir prendre le dessus sur les autres, en fait. Donc, pour pouvoir dissuader les autres à fonction, effectivement, de leurs moyens.
Merci, professeur Mouessi. Didier Bitaki, il y a un auditeur, Vital Nyunda de Bukavu, qui pense qu'il ne faudrait plus laisser le temps à l'ennemi de se réorganiser. Il faut en finir une fois pour toutes. Les FRDC doivent éviter chaque fois que les M23 avancent de faire des replis stratégiques.
Merci beaucoup. On ne peut pas mener une guerre de conquête lorsqu'on joue à la défensive. Les FRDC ont pour mission principale d'assurer l'intégrité du territoire national et de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Donc, les FRDC ont l'obligation désormais de mener une offensive jusqu'à conquérir Bunagana, jusqu'à conquérir toutes les positions tenues aujourd'hui par le Rwanda sous couvert du M23. C'est à partir de ce moment-là que peut-être des initiatives peuvent être prises au niveau de la région pour amener ceux qui auront fui vers l'Ouganda et le Rwanda a regagné la RDC à travers des mécanismes pacifiques. Mais aller dans une négociation où on doit discuter sur l'intégrité du territoire national, parce qu'un petit groupe sous l'influence d'une puissance étrangère occupe une portion de la République démocratique du Congo, ça c'est exclu. Il faut frapper les M23, les déloger, et même aller au-delà de là où il devra se cacher, et notamment au Rwanda et en Ouganda. Il faut déclarer la guerre au Rwanda, parce que le Rwanda nous fait la guerre. Nous, on n'a pas négocié cela. Il faut également que nous puissions le faire de la même manière, et notamment à rompre toutes les relations diplomatiques et politiques avec le Rwanda, parce qu'il nous agresse, à rompre toutes les relations avec l'Ouganda, parce que je ne vois pas une ambassade du Rwanda, une ambassade de l'Ukraine fonctionner en Russie, ou l'ambassade de la Russie fonctionnant au Rwanda, ça n'existe pas. Il faut déclarer tout, on arrête et on fait la guerre, parce que je sais qu'ils veulent. Mais aller dans une histoire où on doit chercher des conciliabiles diplomatiques, ça a déjà échoué même du temps de Kabila, on n'y était pas parvenu. Il faut alors décider de la guerre et il faut que le pays soit prêt à mener cette guerre jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer pour ça.
Merci Didier Bitaki. Il y aura un clair avec la reprise de ces affrontements. Faut-il poursuivre avec la négociation diplomatique ou il faut utiliser la force?
Je pense qu'encore une fois, l'un n'exclut pas l'autre. Je ne pense pas que c'est parce qu'il y a des offensives militaires qu'il faut mettre un terme à la négociation diplomatique. Mais comme ça a été mentionné tout à l'heure, je pense par le professeur, c'est qu'il y a un besoin de mettre les M23 dans une position militairement affaiblie pour pouvoir aider les négociations. Plus ils gagnent de terrain et plus ils sont aussi capables d'infliger une souffrance à la population, plus ils vont essayer de négocier en forçant la main au gouvernement congolais. Je pense que notamment, on en a peu parlé aujourd'hui, mais il faut garder en tête l'impact humanitaire de tout ce qui est en train de se passer avec ces affrontements. Il y a énormément de personnes, plus de 40 000 personnes qui sont en déplacement depuis le début de cette crise dans le territoire de Rutshuru. Quand on prend Tamugenga, qui était une zone qui elle-même accueillait des déplacés, il y a eu des bombardements qui ont eu un impact sur les structures scolaires, sur les structures hospitalières, il y a des gens qui sont en fuite. Et je pense que ce serait pas étonnant de voir le M23 utiliser la ligne d'argumentation qui dit que puisque le gouvernement congolais ne veut pas négocier avec eux, c'est eux qui sont responsables de cette souffrance, malgré le fait qu'évidemment, il y a un groupe rebelle qui est en train de perpétrer ces attaques. Donc moi, je pense que la négociation diplomatique, oui, elle peut continuer en parallèle des offensives militaires, Mais comme on l'a dit tout à l'heure, avec un soutien peu caché des M23 par les pays comme le Rwanda et dans une moindre mesure l'Ouganda, s'il y a négociation, je pense que ça devrait être sur des termes clairs où tout le monde parle avec les mêmes faits. Tant qu'on est sur un déni relatif, je pense que la diplomatie, la négociation arrive dans un certain sens peut-être aussi à ses limites.
Merci Eliora Hensler. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la mise en onde, présentation et coordination, Kelly Nkouté, Guy Maté a réalisé cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.